Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
D'abord, les grands titres de ce dimanche 4 juillet. Trois résidents d'une maison de retraite de Sydney ont testé positif pour le COVID-19 alors que l'État enregistre 16 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Cette semaine et jusqu'au 11 juillet, c'est Nighthawk Week et le thème de cette année est Heal Country, appelant à une plus grande protection des terres, de l'eau, des sites sacrés aborigènes et du patrimoine culturel. Trois résidents d'une maison de retraite de Sydney où deux travailleurs ont testé positif pour le COVID-19 la semaine dernière ont contracté le virus. Les trois résidents de l'établissement de Balcombe Hills de Summit Care sont entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer, ne présentent aucun symptôme et sont de bonne humeur, a déclaré Summit Care dans un communiqué ce dimanche. Deux des trois résidents ont été transférés à l'hôpital de Westmead hier soir par mesure de précaution, l'établissement étant désormais totalement verrouillé avec un nettoyage en profondeur et des tests réguliers en cours. Les 223 membres du personnel et résidents ont été testés pour le COVID-19 hier samedi et ont donné tous des résultats négatifs. La médecin en chef, Dr. Kerry Chant, satisfaite de voir que la majorité des résidents ont aussi été vaccinés.
Now, pleasingly, those three individuals were fully vaccinated. But out of the abundance of caution, they've been offered transfer to Westmead Hospital for observation. And to date, no further residents have tested positive.
La chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si le verrouillage du Greater Sydney, de la Central Coast, des Blue Mountains et de Wollongong sera prolongé au-delà du 9 juillet prochain. Il y a eu, comme je le disais, 16 cas acquis localement ce dimanche. 13 de ces personnes sont déjà en isolation. Gladys Berejiklian a déclaré que les prochains jours étaient, je cite, « absolument critiques ». Le Queensland a enregistré un seul nouveau cas acquis localement sur plus de 14 000 tests effectués pour le COVID-19. Les tests révélant que le cas est de la variante Alpha. Les autorités sanitaires de l'État ont émis une nouvelle alerte pour les sites d'exposition à Brisbane et dans le sud-est de l'État, quelques heures seulement après la fin du verrouillage instantané de 4 jours. Plus d'une douzaine de sites d'exposition ont été annoncés, dont des sites à Yumundi, Sunshine Beach, Karina, Carindale et Tingalpa. La médecin en chef, Dr. Janet Young, a déclaré que le cas du centre communautaire grec était lié à l'épidémie du restaurant portugais.
So there were those two new cases overnight, one in hotel quarantine and the second in home quarantine, went into home quarantine on the 2nd of July because there was a close contact of the Greek community centre. So they've now been admitted to hospital. Then there is another person of interest that I'm just doing further testing on, another close contact from the Greek community centre.
Dr. Young déclare aussi que le port du masque à l'intérieur continue de rester obligatoire dans l'État pour les 12 prochains jours. Plus de 4000 personnes sont actuellement en quarantaine à domicile dans l'État du Queensland. La ministre fédérale Anne Ruston a déclaré qu'elle aimerait voir les frontières nationales et internationales s'ouvrir dès que possible. La semaine dernière, le premier ministre a annoncé un plan en 4 étapes pour sortir l'Australie de la pandémie de COVID-19. Le cabinet national a accepté un plan en 4 étapes pour que l'Australie passe de la tentative de suppression du COVID-19 à la situation telle qu'elle était avant le virus. Chaque nouvelle phase serait déclenchée par l'atteinte d'un seuil de vaccination exprimé en pourcentage de la population éligible. Anne Ruston a déclaré à Sky News que l'ouverture de l'Australie devrait dépendre aussi de ce que les experts de la santé ont à dire.
Every Australian wants us to be able to get to stage four as quickly as possible, but we can only do that if we know that the health and safety of Australians has been protected along the way. So we'll have to wait for the medical advice to come in and all the other advice to come in. But, you know, like you, I hope that borders are open as soon as possible.
Une nouvelle campagne vidéo vise à stimuler l'adoption du vaccin contre le coronavirus parmi les différentes communautés de Melbourne, les personnes impliquées affirmant qu'un manque d'informations dans la langue a conduit à l'hésitation de certains migrants. Les vidéos seront diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux et seront également produites en anglais et en Auslan. Une campagne Connect to Country tente de changer la compréhension que les Australiens ont du pays traditionnel dans lequel ils vivent. La campagne, une collaboration entre l'agence aborigène Creative X et Facebook, arrive à temps pour la semaine Night Doc, la célébration annuelle de la culture et des réalisations des aborigènes et des personnes du détroit de Torres. La campagne cherche à faire connaître les noms de lieux traditionnels en Australie grâce à une campagne sur les réseaux sociaux. Le thème de Night Doc de cette année est Hill Country, appelant à une plus grande protection des terres, de l'eau, des sites sacrés aborigènes et du patrimoine culturel. Une énorme coulée de boue causée par de fortes pluies a détruit au moins 10 maisons et endommagé des centaines d'autres au Japon. Au moins 2 personnes sont décédées et une vingtaine d'autres sont toujours portées disparues de la préfecture de Shizuoka, au sud-est de Tokyo. Les masses de boue ont tout aplati sur leur passage, des pylônes électriques, des voitures, des immeubles résidentiels entiers s'effondrant et les rues s'enfonçant dans la boue. Le premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu'il faudrait un certain temps avant que le plein impact ne soit connu.
We are currently working to understand the situation of the damage. The landslide that swept away some people and many houses, especially in Izusan area in Atami, Shizuoka Prefecture, has brought big damages.
En France, maintenant, avec le congrès du Rassemblement national qui a lieu ce week-end à Perpignan, où Marine Le Pen sera probablement réélue présidente à la fin du meeting et présentée comme candidate pour la présidentielle de 2022. Mais il y a des doutes au sein du parti après la débâcle des régionales le week-end dernier. Les précisions de Anne Souhaitemont pour Radio France Internationale.
Merci mes amis.
Probable futur président du parti lorsque Marine Le Pen se lancera à 100% à l'assaut de l'Élysée, Jordan Bardella commence par rendre un vibrant hommage à la candidate à la présidentielle.
Depuis 20 ans, Marine Le Pen aura eu raison sur tout et avant tout le monde.
Une opération sauvons le soldat Marine Le Pen, car la débâcle des régionales a laissé des traces chez les électeurs et même chez les militants les plus attachés à la présidente du parti. Marie-France et Amandine ont fait plus de 1000 km pour venir jusqu'à Perpignan. Elles sont encore sonnées par les résultats de dimanche.
Elle est peut-être un peu fragilisée, mais on va remonter, on va surmonter tout ça et voilà.
J'espère qu'elle réussira à gagner. On verra bien ce que ça donne.
Alors évidemment, la plupart des participants veulent positiver.
Je ne suis pas du tout inquiet, on va retrouver notre présidente en pleine forme.
Mais de petites voix s'élèvent pour contester l'entreprise d'ouverture, de normalisation du parti, lancée par Marine Le Pen voilà 10 ans.
Moi je suis un ancien, donc je vais dire repartir sur les bases de Jean-Marie. Parce que là, elle part peut-être un peu trop à droite, un peu trop à l'air.
Une stratégie que Marine Le Pen ne devrait pas renier lors de son discours de dimanche, face à un parti en plein doute.
Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec les discussions autour de l'après-pandémie, alors que dans le pays, on redoute une nouvelle vague du Covid-19. Dominique Bayard, RFI.
Au moment où on commence à parler de la sortie du quoi qu'il en coûte, va-t-on vers une nouvelle crise sociale ? C'est la crainte qui s'exprime en filigrane à travers l'enquête présentée ce matin par Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP.
La façon dont avait été gérée la crise du Covid a conforté beaucoup de Français dans des représentations économiques qui peuvent à terme poser problème. Quand les politiques veulent, ils peuvent. Comment va-t-on réagir quand on va progressivement retirer la perfusion.
Pour la classe politique, restaurer les finances publiques est un devoir, estime Xavier de Romanet. Mais comment vont-ils faire, s'interroge le patron des aéroports de Paris.
Il va y avoir une difficulté à l'exercice de la fonction politique dans les 10 années qui viennent qui va être totalement inconnue pour l'ensemble de nos compatriotes. L'idée même de la reprise de contrôle des finances publiques est un gros mot.
Le message des gilets jaunes des ronds-points n'a toujours pas trouvé de réponse dans notre pays.
C'est Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, conforté par les régionales et candidat à la présidentielle, qui lance cette mise en garde.
Et si l'on pense aujourd'hui qu'on va pouvoir enjamber tout cela et repartir comme avant, en indiquant aussi qu'on est sur une reprise économique très bien, qu'il y a le retour de la croissance, tant mieux. Mais la croissance n'est jamais égale pour tous. La crise que nous avons connue des Gilets jaunes est un dernier avertissement et nous connaîtrons une secousse plus importante.
Dans la campagne de l'élection de 2022, le thème de la crise sociale qui gronde s'est déjà imposé.
Et puis le départ pour les grandes vacances, c'est ce week-end en France. Les Français restent pour la plupart dans l'Hexagone. Écoutez Didier Arinaud, directeur de Pro Tourisme.
Les Français sont beaucoup plus nombreux à partir cet été. On va assister à des chiffres records de départs en vacances, puisque 37 millions de nos concitoyens partent en juillet ou août, ou envisagent de partir pour ces vacances, et avec une durée de séjour plus longue, de 12 jours contre 10 les années précédentes, ça signifie qu'il y aura beaucoup plus de nuitées, donc beaucoup plus de monde dans les destinations de villégiature, et ça compensera largement la baisse importante des clientèles étrangères, que ce soit les clientèles européennes, ou pire encore, les clientèles lointaines. Donc on peut dire que les indicateurs sont au vert, et même le risque de variant nous touche moins, puisqu'il y a véritablement danger lorsqu'on part dans des destinations étrangères, mais pour l'instant, les taux sont relativement faibles.
En Afrique maintenant, en République démocratique du Congo, une crise s'annonce avec les vaccins. Des milliers de doses d'AstraZeneca sur le point d'être perdues à cause de la date d'expiration du 11 juillet prochain. Explication de Patient Ligodi pour RFI.
Aujourd'hui, il faut trouver rapidement au moins 50 000 doses pour les personnes ayant déjà reçu la première injection d'AstraZeneca. Le pays compte une fois de plus sur la facilité COVAX, selon Jean-Jacques Mbungani Mbanda, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Les discussions sont avancées pour obtenir ces vaccins dans le délai requis par l'OMS. Selon lui, le pays attend 5 900 000 nouvelles doses. Pour cette nouvelle campagne, aucun calendrier n'est encore disponible. Ces nouveaux lots concerneront plusieurs familles de vaccins et le gouvernement multiplie des initiatives. Le pays discute avec la Chine pour avoir quelques doses du vaccin Sinovac. Des discussions directes également sont en cours avec Pfizer. Là encore, les nombres exacts des doses et les délais ne sont pas encore connus. L'autre possibilité, c'est à travers l'Union africaine. Des échanges ont été entrepris aussi pour obtenir le vaccin Johnson & Johnson. Il restera alors le défi d'éviter les couacs de la première campagne et mieux organiser la logistique et le plan de distribution de tous ces vaccins pour atteindre au moins 25% de la population vaccinée le plus tôt possible.
Direction le Canada, avec l'ouest du pays ravagé par les incendies. Et en Colombie-Britannique, on craint un nouveau départ des feux. Le point avec Marie Normand sur place pour RFI.
La plupart des incendies sont localisés autour de Kamloops, dans le sud de la Colombie-Britannique. Plus de 1000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile, mais les résidents de cette province sont invités à suivre attentivement les directives des autorités qui pourraient procéder à de nouvelles évacuations ce week-end, car de nouveaux départs de feu sont attendus. Pourquoi ? Il y a d'abord la chaleur, comme l'expliquent les météorologues canadiens. Le thermomètre a atteint 49,6 degrés par endroit cette semaine, une chaleur qui s'ajoute à une sécheresse exceptionnelle ces dernières semaines. Les scientifiques notent aussi qu'en 24 heures, la foudre a touché le sol plus de 100 000 fois en Colombie-Britannique, entre mercredi et jeudi par exemple, et c'est au cœur de cet immense orage que le village de Lytton a presque entièrement brûlé, centre-ville inclus. Cette vague de chaleur se déplace maintenant vers l'est, vers les prairies du centre du Canada. Des renforts ont été demandés à l'État fédéral. 350 soldats de l'armée canadienne doivent être déployés pour aider à combattre ces incendies.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 18 degrés. Adélaïde, 14. Melbourne, 12. Hobart, 11. Canberra, 9. Sydney, 16. Brisbane, 22. Cairns, 27. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce 4 juillet. Trois résidents d'une maison de retraite de Sydney ont testé positif pour le Covid-19 alors que l'État enregistre 16 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Cette semaine et jusqu'au 11 juillet, c'est NIDOC Week et le thème de cette année est Heal Country.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.